France Musique. Musicopolis. Schumann à Vienne. À l'automne 1838, Robert Schumann a 28 ans. Il est depuis 4 ans le directeur de la nouvelle revue musicale de Leipzig, où il vit. Il fait partie de l'intelligentsia de la ville, où il fréquente de nombreux intellectuels, poètes et musiciens. Ses articles sont très lus et partagés, il a une certaine influence. Il compose également, il est publié, et ses œuvres sont remarquées de quelques-uns. Liszt, par exemple, lui écrit « Le carnaval et les Fantasiestück m'ont extraordinairement intéressé. Je les joue vraiment avec délice et Dieu sait que je ne puis pas en dire autant de beaucoup de choses. Pour parler franc et net, il n'y a absolument que les compositions de Chopin et les vôtres qui soient d'un puissant intérêt pour moi. » Mais voilà, même si Liszt, le plus grand pianiste de l'époque, a adoubé Robert Schumann comme l'un des deux compositeurs les plus intéressants du moment, sa carrière est encore loin d'être faite. Bien sûr, 28 ans pour un compositeur, c'est encore jeune et tous les espoirs sont permis. Mais contrairement à Liszt et à Chopin, Schumann n'est pas pianiste. Du moins, il ne l'est plus. Il a perdu l'usage d'un doigt de la main droite en voulant le renforcer par des appareils barbares. C'est pourquoi son travail de journaliste et de directeur de revue lui est indispensable pour vivre. Et en fait, tout serait parfait s'il pouvait se contenter de son petit revenu. Mais voilà, depuis quelques années, Robert est amoureux de Clara, la fille de son ancien professeur de piano, le grand pédagogue Friedrich Wieck. Les jeunes gens voudraient se marier, mais le père Wieck s'y oppose farouchement. Il exige que Schumann présente une situation plus stable et prospère pour donner son accord. C'est là que le jeune homme a l'idée d'aller chercher fortune à Vienne. Le voyage de Leipzig à Vienne prend plusieurs jours par la Malle-Poste avec un arrêt à Prague. Schumann arrive dans la capitale autrichienne le 3 octobre 1838, plein d'espoir, certain qu'il pourra bientôt y faire publier sa revue musicale. Il se lance tout de suite dans les nombreuses démarches nécessaires. Thank you. Le 10 octobre 1838, quelques jours après son arrivée à Vienne, Schumann écrit à son frère et sa belle-sœur. Cette ville est tellement grande que tout prend deux fois plus de temps. J'ai été reçu partout avec beaucoup de gentillesse, même par le directeur de la police, qui m'a donné audience avant-hier. Il a dit qu'il n'y avait aucune objection à ce que je puisse vivre ici et que je pourrais me mettre au travail dès que j'aurai trouvé un éditeur autrichien. Si je n'en trouve pas, je pourrais rencontrer de grandes difficultés, étant étranger. Je dois me présenter chez Haslinger aujourd'hui ou demain. Vous n'imaginez pas ce qu'il y a de petites factions et coteries ici. Pour se tenir ferme, il faut avoir quelque chose du serpent en soi, ce qui n'est pas mon cas. Va vite déchanter quant au progrès de son affaire avec l'administration viennoise pour pouvoir transplanter sa revue musicale dans la capitale autrichienne. On lui met des bâtons dans les roues et il s'aperçoit bientôt qu'il va devoir renoncer à son idée. Le 3 novembre, il écrit « Je suis très triste au sujet de mon cher journal. À en juger par l'expérience acquise depuis que je suis ici, il est vraiment très difficile, étant donné l'obstruction qui vient d'en haut, de réaliser ce que je m'étais promis. Néanmoins, il profite de la riche vie culturelle de la ville. Il entend Thalberg, le pianiste-compositeur, mais il trouve que le jeu de sa Clara vaut 10 fois mieux. Belle, belle, turbando al riposo, Narcisetto adocino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchi, quel cappello leggero e calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. À Vienne, Schumann est ravi d'aller à l'opéra. Il entend notamment Turandot de Püttlingen, directeur du conservatoire, et Les Noces de Figaro de Mozart. L'opéra, excellent, écrit-il, me fait le plus grand plaisir, particulièrement les chœurs et l'orchestre. Nous n'avons aucune idée de cela à Leipzig. Le ballet aussi t'amuserait. Je n'ai pas encore été au théâtre allemand, connu comme le meilleur d'Europe, et pas non plus au petit théâtre du Vaudeville. Néanmoins, Schumann sort et fait la connaissance de nombreuses personnalités. Ignaz von Seyfried, les Cavalcabo, chez qui il mange divinement. Il rencontre les poètes Pürckner, Lenau et Grillparzer et il se lie d'amitié avec le fils de Mozart. Je vous le dis comme un secret, écrit Schumann à sa famille. Je ne pourrais pas vivre à Vienne longtemps, et seul. Ici, les hommes sérieux et les Saxons sont rarement bienvenus et compris. Mais le cadre délicieux compense tout cela. Hier, je suis allée au cimetière où Beethoven et Schubert reposent. Imaginez-vous que j'ai trouvé sur la tombe de Beethoven une plume à écrire, une plume d'acier. C'est un bon présage. Je vais la conserver comme un objet sacré. Beethoven, mort seulement une dizaine d'années avant le passage de Schumann, est pourtant assez oublié à Vienne, où déjà à la fin de sa vie, il faisait figure de vieux dépassé, qu'on respectait certes, mais dont on ne jouait plus guère la musique, tellement moins à la mode que celle de Rossini. Si Schumann connaît bien la musique de Beethoven néanmoins, c'est que sa chère Clara, sa fiancée, la joue. Clara a même en quelque sorte révélé la sonate en fa mineur aux Viennois lorsqu'elle était venue au début de cette même année 38. Liszt lui-même, qui l'a entendu alors, a parlé de sa remarquable interprétation. D'ailleurs, le souvenir de Clara à Vienne est encore bien présent. Et Schumann peut écrire « Clara est idolâtrée ici. Où que j'aille, on me parle d'elle dans les termes les plus chaleureux. » Remarquez qu'il est difficile de trouver un public plus encourageant. Ils sont plutôt trop enthousiastes. Dans les théâtres, on entend plus d'applaudissements que de musique. C'est tout à fait charmant, mais quelquefois bien ennuyeux aussi à mon goût. Ce Vienne, il faut bien le dire, écrit Schumann, avec sa cathédrale Saint-Étienne, ses belles femmes, son faste public et cette ceinture aux plis innombrables que lui fait le Danube, et cette plaine fleurie où il s'étale, montant insensiblement vers des collines toujours plus élevées, ce Vienne, avec ses monuments élevés aux plus grands maîtres allemands, doit être pour la fantaisie du musicien un terrain fructueux. Souvent, à le contempler du haut des montagnes voisines, il m'est venu à la pensée que, plus d'une fois sans doute, les yeux de Beethoven ont laissé errer leur regard vagabond vers ces lointaines rangées des Alpes, que Mozart doit avoir suivi dans ses rêveries la course de ce Danube qui semble se perdre de tous les côtés à travers les bocages et les forêts. Thank you. Parmi les rencontres que fait Schumann à Vienne en cet automne et hiver 1838-39, Ferdinand Schubert, le frère aîné de Franz. Franz Schubert, mort dans la capitale viennoise, lui aussi voici une dizaine d'années, un an après Beethoven, et tout aussi peu joué que son illustre aîné. Ferdinand, raconte Schumann, me fit voir les trésors qui se trouvent encore entre ses mains, les compositions de Franz Schubert. Et la richesse accumulée là, devant moi, me fit frémir de joie. Mais où porter la main d'abord et où s'arrêter? C'est ainsi que j'y trouvais les partitions de diverses symphonies, dont beaucoup n'ont pas été entendues du tout, ou bien souvent ont été écartées après examen comme trop difficiles et trop bourrées de choses. Si Schumann fait à Vienne moult rencontres intéressantes, pourtant il n'y trouve pas son compte. D'abord, il trouve les Viennois un peu factices. Finalement, la bonne nature viennoise n'est peut-être, écrit-il, qu'une figure souriante et vide. Et ensuite, ses affaires n'avancent pas. Le régime politique est dur pour les natifs comme pour les étrangers, et il a été en butte à la censure de Metternich. Il met tout de même à profit son séjour pour composer, et notamment au mois de février, un carnaval de Vienne, de circonstances, dans lequel il s'amuse à défier les autorités. Quoi de plus amusant pour un compositeur que de réussir à caser un petit bout de la Marseillaise, chant révolutionnaire, dans une œuvre dont le titre fait référence à la ville la plus conservatrice qui soit. C'est là qu'on reconnaît l'humour schumannien. Mais début mars, son humeur s'assombrit. Il est assailli de mauvais pressentiments, qui se concrétisent un peu plus tard lorsqu'il reçoit une lettre de sa belle-sœur. Son frère Édouard est au plus mal, il faut qu'il rentre très vite. Thank you. Lorsque Schumann arrive à Zwickau pour se rendre au chevet de son frère, celui-ci est mort depuis 3 jours. La pièce, pleine de pressentiments qu'il a composée entre-temps, sera intégrée plus tard au carnaval de Vienne. Ce carnaval sera finalement le plus bel hommage rendu à la capitale autrichienne par Schumann, qui n'ira jamais s'installer là-bas et finira sa vie là où il a toujours vécu, en Allemagne. Le final du Carnaval de Vienne de Schumann, Arturo Benedetti Michelangeli au piano, enregistré à Londres en 1957. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour le site, Éric Villenfin pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.